Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément en réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Chaque jour, la jeunesse attend sa chance comme l'attendent les ouvriers, même les vieux. Ils l'attendent, tous ceux qui sont mécontents et qui réfléchissent. Ils attendent que se lève une force, quelque chose dont ils feront partie, une sorte d'internationale nouvelle, qui ne fera plus les erreurs des anciennes, une possibilité d'en finir une fois pour toutes avec le passé, et que commence quelque chose de nouveau. Nous avons commencé.
En fait, qu'on a commencé. On a commencé par une grande manif qui est partie de la place de la Libération, mercredi à 14h. C'était une manifestation qui était appelée par quasiment tous les syndicats de France, une manifestation contre la loi travail. C'est cette loi-là qu'ils essayent de faire passer en ce moment, une loi qui étendrait la durée de travail par semaine, une loi qui ferait payer les heures sup encore, à un prix encore en dessous. Et puis il y a encore d'autres points dans cette loi qui sont assez scandaleux, comme un rabaissement de l'âge minime pour pouvoir travailler, des droits en moins aussi pour les syndicats. Enfin, c'est... Il y a beaucoup de gens qui disent que cette loi, elle représente la première énorme cassure du code du travail dans son ensemble tel qu'on le connaît jusqu'à présent. Donc mercredi, la manif elle est partie à 14h de la place de la Libération. Il y avait énormément de monde, beaucoup plus je pense que ce qu'attendait la préfecture et la plupart des gens. On était entre 2000 et 2500. Et le cortège était tenu par les lycéens et les étudiants qui avaient une grande banderole qui disait « Sur nos vies on veut avoir prise.
» Leur loi on la brise.
Leur loi on la brise. Et elle a traversé la ville avec de la musique, et puis je sais pas, quelques fumis et beaucoup de gens qui chantaient. Et elle est allée jusqu'à la place de la République, et puis ensuite elle est montée jusqu'à la fac pour y tenir une AG de lutte, pour réfléchir à la suite du mouvement. Et arrivée à la fac, ces 2500 personnes se sont un peu englouties dans la fac.
Dans le bâtiment
de droit à lettres. Et puis, il y a eu une petite heure de joyeuse visite de la fac pour se demander un peu où est-ce qu'on s'installait, dans quel amphi est-ce qu'on prenait place. Et du coup, on a visité quelques amphis. Et puis, l'administration voulait envoyer tout le monde en amphi Gutenberg. Et la plupart des gens se sont dit qu'il fallait être proche du bâtiment droit à lettres pour pouvoir réfléchir pendant cet AG à éventuellement occuper cet amphi. Et en sachant que cet amphi, il était beaucoup plus connecté avec la fac de droit à lettres que celui de Gutenberg, qui est un peu isolé, un peu plus loin. Et c'est comme ça, du coup, que... Bon, il y avait plus de 1500 personnes à ce moment-là, on va pas mentir. C'est comme ça que, voilà, je sais pas, on était peut-être 200 ou 300 en AG. Ces 300 personnes ont décidé de s'installer dans cet amphi qui est l'amphi Mathiez. Je sais pas si quelqu'un veut raconter ce qui s'est passé depuis ce moment-là.
Bah, depuis ce moment-là, c'était un petit peu l'assemblée qui a émergé suite à cette manif était plutôt joyeuse et en même temps remplie un peu de tension. Chacun explosait un peu son point de vue par rapport à cette loi et un petit peu par rapport à la suite qu'ils envisageaient. Donc il y a eu quand même la question du blocage qui au final s'est réglée assez rapidement. On a réussi à passer cette question outre et justement on s'est mis tous d'accord au bout de 2-3 heures de discussion pour au final décider ensemble de manière unanime que c'était important de libérer un espace et un espace réservé à la discussion, réservé à des conférences, réservé à tout un tas de choses assez chouettes de création collective,
réservé à l'organisation aussi de cette lutte contre la loi du travail en tout cas pour commencer.
Exact, comme une espèce de base arrière où les syndicats, les salariés, les étudiants, tout le monde pouvait se retrouver à ce moment-là dans cet espace-là, quoi, et que c'était une nécessité matérielle aussi. Et voilà, c'était un petit peu la conclusion de cette assemblée, et qui a été effective dès le lendemain, au final, parce que le lendemain, il y a eu deux conférences à cet amphi Mathiez. Deux conférences, une qui portait sur l'état d'urgence, parce que aussi au cours de la première assemblée a été dit que c'était important de croiser les différentes luttes et de parler de ce que le gouvernement fait un petit peu subir à tout le monde depuis un an.
Un petit peu.
avec la loi du renseignement, l'état d'urgence comme un maintien de la population assez fort, comme quadriller un petit peu cette population-là. Et du coup, c'était important pour les différentes personnes qui étaient dans l'amphi de faire une discussion sur l'état d'urgence. Donc là, il y a eu un maître de conférence du département de sociologie de l'université de Dijon qui est venu.
Monsieur s'appelle Georges Bialy.
Voilà. Et un membre de la Ligue des droits de l'homme, Paul Garry, qui sont venus faire une présentation à 17h sur l'état d'urgence jeudi. Puis on a suivi une autre discussion qui était très à propos, qui était une discussion sur la loi du travail.
Ouais, la loi travail. Économiste, c'est Damien Sauze qui est venu décortiquer un petit peu le contenu de cette loi. Il fait partie d'un groupe qui s'appelle les économistes atterrés, je crois, et qui du coup, eux, ont pris position depuis quelques jours dans des tribunes, etc., contre cette loi, depuis leur point de vue d'économiste. Et puis... leur savoir un peu.
Et du coup, il a expliqué vraiment point par point, très techniquement, il a démonté tous les argumentaires, tout l'argumentaire qui est développé en ce moment par le gouvernement pour promouvoir un petit peu cette loi travail et dire que ça va créer de l'emploi, etc. Quoi qu'ils sont revenus très récemment sur le fait que ça allait combattre le chômage, mais bon, peu importe. Et de là a émergé une discussion sur justement ce que c'était que la loi travail et quelles pouvaient être les solutions pour justement contrer cette loi. Et ensuite, c'est suivi une assemblée vraiment, vraiment chouette, où là, pour le coup, c'était complètement différent de la veille, où les gens s'écoutaient vraiment, où les discussions ne se cristallisaient pas, où il y avait vraiment ce sentiment d'écoute et de bienveillance, même si les sensibilités étaient complètement différentes, quoi. Et voilà, c'était assez
joyeux. Ouais, on a tous l'impression que le fait de passer 1, 2, 3 jours ensemble, ça a permis aux gens d'être plus à l'écoute les uns des autres dans les assemblées, etc. Et on a vraiment assisté à des très belles assemblées où il était quand même beaucoup question de qu'est-ce qu'on fait ensemble et comment on avance ensemble, plutôt que d'essayer de s'étriper sur qu'est-ce qu'on pourrait avoir à ne pas faire ensemble. Et voilà, ça a continué comme ça jeudi, enfin ça c'est la journée de jeudi, ça a commencé comme ça, a continué comme ça vendredi et samedi, où du coup tout le monde a un peu décidé que cet amphi, bah, il pouvait s'y passer de multiples choses, des conférences, mais il y a eu aussi un foot dehors samedi, puisque toute la journée de samedi était considérée, était consacrée à la journée nationale contre l'état d'urgence. Du coup, ce jour-là encore, il y a eu beaucoup de lectures de textes sur l'état d'urgence et de choses comme ça. Donc il y a eu un certain nombre de conférences et de discussions un peu sérieuses, mais aussi en dehors de ça, il y a eu énormément de discussions informelles entre les gens. Il y a quand même un flux de gens dans cet amphi qui passe assez impressionnant. Je crois que tous les jours, il y a des gens un peu nouveaux qui ont débarqué là-bas et qui ont pris part à ce qui s'y passait.
Et il y a toujours des gens qui passent, des nouvelles têtes. Et pour les âgés, moi, je trouve ça assez impressionnant qu'il y ait toujours de nouvelles personnes qui arrivent massivement pour les âgés. Et je trouve ça vraiment, vraiment chouette que chacun se réapproprie vraiment ce lieu, en fait. Oui. Et c'est aussi ça, tout ce temps qui est libéré, c'est un temps pour préparer de la nourriture, pour savoir comment on s'organise ensemble, quelles sont les modalités de cette organisation. Et ça préfigure quand même des choses très joyeuses, parce que ça roule assez bien, et c'est assez fou que ce soit aussi facile, moi je trouve, de pouvoir faire de la bouffe comme ça pour une centaine de personnes, le matin, le midi, le soir, rien que ça, c'est quand même assez fort dans cette capacité à s'organiser dans cet amphi.
Si vous avez rien à rajouter à ça, on peut peut-être lire le communiqué. Il y a deux communiqués qui ont été écrits depuis l'amphi Mathiès, depuis mercredi. Ça, c'est le second qui est sorti avant-hier, à la suite justement d'une très belle AG, et qui s'appelle « Amphi Mathiès, l'enjeu de notre lutte ».
Le gouvernement nous explique que le projet de loi El Khomri lutte contre le chômage. Nous soutenons que ce n'est pas en augmentant le temps de travail qu'on incitera à la création de nouveaux emplois. Il n'y a pas assez de travail pour tous. En effet, il est insensé de vouloir donner plus de travail à ceux qui en ont déjà et qui peinent à trouver du temps libre pour leur vie personnelle, alors que 5 millions de chômeurs sont exclus durablement du monde professionnel. Soit on décide de faire partie des rares travailleurs, soit on choisit de mettre en place un système de partage plus équitable du temps de travail, permettant par la même occasion une meilleure unité de la population. Nous pensons que pour améliorer nos conditions de vie et d'embauche, il vaut mieux répartir le travail et non pas le concentrer sur une minorité. L'avenir n'est pas à l'augmentation du temps de travail, mais à la libération du temps libre. Il faut du temps libre pour réfléchir à un monde meilleur. Il faut libérer de l'espace pour penser, pour poser nos points de vue politiques, économiques, sociétés et sociétaux, afin d'élargir et d'améliorer nos perspectives. Cette loi est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Profitons-en pour le vider de son contenu. Ce mouvement réunit toutes les personnes qui veulent une vie meilleure que celle que le gouvernement propose. Cet amphithéâtre est le lieu de débats, de conférences, animés par des étudiants, des économistes, des sociologues, des associations, permettant une ouverture d'esprit qui ne nous est pas permise dans le cours normal de nos vies. Nous n'empêchons pas les étudiants d'étudier à l'amphi Mathiès. Nous sommes contre l'instabilité et la flexibilité que l'on nous propose et nous voulons avoir une emprise sur nos vies, avoir le temps de réfléchir sur nos conditions pour pouvoir contrer les abus du patronat. Les jeunes sont aussi concernés. Les jeunes sont les premiers à être concernés par cette loi El Khomri. Ils connaissent déjà la précarité à travers les stages non rémunérés ou peu, les emplois étudiants néfastes à la réussite des études puis au cours de leurs insertions professionnelles, souvent difficiles. Marteler aux jeunes que faire des études les protégera du chômage et de la précarité, c'est oublier 25% de jeunes chômeurs, c'est oublier la précarité des contrats proposés aux jeunes, tels que le service civique ou les CDD représentant 80% des nouvelles embauches. Proposer aux jeunes comme seule alternative à la précarité la poursuite de leurs études n'ouvre pas pour autant des opportunités d'emploi et implique l'effet pervers d'une massification des surqualifiés, très avantageuse pour le patronat. Les jeunes sont constamment dévalués, il faut qu'ils s'unissent, se revalorisent et se fassent entendre par le patronat et le gouvernement qui les attaquent et les rabaissent trop souvent. C'est donc maintenant qu'il faut tout donner, exiger le retrait total de cette loi et construire notre avenir. Le gouvernement n'a pas à parler en notre nom. Il n'a pas à modeler notre avenir sans notre consentement. Il n'existe pas de pensée unique, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Ici, des idées sont débattues, des opinions diverses sont confrontées pour améliorer notre horizon commun. Il y a urgence à ce qu'étudiants, salariés, chômeurs et retraités se réapproprient le choix de vie en descendant dans la rue, en mobilisant leur réseau pour faire converger leurs forces. Pour ce faire, rendez-vous le 17 mars 2016, le jeudi 17 mars 2016, dans la rue pour montrer que les décisions ne s'imposeront pas à nous sans notre implication. La casse du droit du travailleur ne se fera pas. Les réformes ne nous seront pas imposées par des pantins peu représentatifs des salariés. Nous ne sommes pas des chiffres dans leur modèle économique, mais des êtres humains qui lutteront jusqu'au bout contre le retour à l'asservissement. En attendant, passez nous voir à l'amphi Mathiez.
Je crois que c'est une constante dans tous les communiqués qui ont été écrits, c'est vraiment d'inviter les gens à passer dans l'amphi. Il y a des gens qui sont disponibles pour accueillir les gens, expliquer qu'est-ce que c'est que cette loi, mais aussi expliquer qu'est-ce qui s'y passe. Et puis, tout le monde souhaitait, un peu ça a été redit hier en assemblée, que cet amphi soit le lieu de tout le monde, et pas seulement le lieu des gens qui ont débarqué après cette manifestation, etc. Mais qu'il soit ouvert à la discussion, au débat et à la rencontre.
Ouais, et ça commence un petit peu à se faire. Il y a quand même hier il y a plusieurs personnes, des salariés qui sont passés pour savoir ce qui se passait à cet amphi-là suite à un reportage qu'il y a eu de France 3 ou suite à du bouche à oreille, ils sont passés et ça s'est quand même super bien passé parce qu'on a mangé ensemble et on a pu discuter de manière assez simple. Du coup, ça commence vraiment à fonctionner, ce bouche à oreille de passer à l'amphi Mathiez pour boire un café, quoi. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire passer depuis quelques jours et ça commence à prendre, quoi.
Alors nous, on a tiré Raoul de l'amphi pour qu'il vienne avec nous et on voulait que, Raoul, on te connaissait pas avant mercredi et tu nous connaissais pas et on avait envie que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce qui s'y passe et surtout en commençant par comment t'as débarqué là-bas, quoi, comment ça se fait.
Alors déjà, je crois que vous me connaissez vraiment ou pas, parce que du coup, moi, je m'appelle pas Raoul.
Alors, on t'explique, c'est la tradition de l'émission d'inventer des noms rigolos à tous les invités, mais c'est vrai qu'on a oublié de te prévenir, du coup, c'est un peu surprenant.
Ouais. Voilà, je me dis, merde, il y a deux minutes, tu savais mon prénom, j'ai...
Ouais.
Bon, mais Raoul, c'est pas mal aussi, hein. J'aime bien, c'est
comme
sympa.
Tu peux en choisir un autre, si tu veux.
Non, ouais. Ou Gaïa, tu sais, c'est...
Gaïa, ok. Gaïa, alors...
Mon chien de paix qui est chiant, tu vois. Celui qui ramène ta 8-6. Bon, bref, je vais raconter un peu mon histoire, lui de raconter des bêtises.
Vas-y.
Alors, mais je suis venu déjà à la manif le mercredi. Et c'est à peu près au moment où on est arrivés tous dans l'université, où ça commençait un peu à partir en couille un peu partout. Et j'avais d'autres soucis à régler et tout dans ma vie personnelle. Et du coup, j'ai dit, tant pis, je m'en vais. C'est pas grave.
Parce que t'avais l'impression que ce serait pas,
ouais,
ça allait pas marcher, quoi.
Non, c'était vraiment très... Et beaucoup de violence et tout. Enfin, c'est pas ce qui m'intéressait le plus dans un mouvement comme ça. Et par la suite, en fait, le soir, donc, j'étais à une soirée et j'ai un pote qui était resté, lui, après la manif. Et il m'a dit, ouais, mais mec, viens, on va dormir à l'amphi, on occupe l'amphi Mathiez, faut que tu viennes absolument, c'est super cool, les gens discutent de politique de partout. Alors du coup, ça m'a donné l'eau à la bouche, quoi. Genre, on fait en sorte de pas blesser les gens chez qui j'étais, mais j'avais vraiment envie de partir à l'amphi. Et puis c'est vrai que quand je suis arrivé, sur les coups de 1h du matin, il y avait des groupes partout qui discutaient de politique. Ça, c'est vraiment ça que je voulais. C'était pas ce qui a commencé à commencer. Même si je pense que si ça n'avait pas commencé comme ça, peut-être qu'on n'aurait peut-être pas eu l'amphi Mathiez ou des trucs comme ça. Et du coup, ouais, ça m'a donné envie de revenir le lendemain. Puis dès le lendemain matin, je suis revenu. Puis j'ai participé à l'AG. Et ça a vraiment plu. Franchement, les AG, j'en ai fait deux à l'heure actuelle. Et c'est vraiment un endroit où... super. Alors pourtant, on a vraiment des gens de tout horizon. Parce qu'on a des membres de l'UNEF jusqu'au plus profond des anarchistes, ministres, là. Et vraiment, il y a vraiment des débats qui se créent entre des gens qui n'ont pas forcément la même vision. Et même des fois, ils se regroupent sur certains points. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je reviens souvent. Par chance, j'avais pas cours le vendredi. Du coup, j'ai pu passer max de temps ici. C'est vrai que j'ai pas passé... autant de temps que vous dans l'amphi, parce que Mais c'est vrai que on peut allier un peu sa vie personnelle et quand même passer un peu de temps à occuper, un peu de temps à lutter. Et c'est pour ça que c'est un endroit magnifique et qu'il faut venir. Même ne serait-ce qu'une petite heure pour discuter avec un pote ou quelques discussions comme ça, quelques phrases comme ça, même si t'es un peu timide, t'essaies de placer quelques phrases et finalement t'auras passé un bon moment. Et je pense que même une heure, ça peut t'aider à réfléchir.
Parce que toi, du coup, t'as rencontré des gens comme ça,
ben
t'es
ouais.
Marqué et tu t'es mis à discuter ça, avec des gens que tu connaissais pas.
Bah je connaissais du coup mon pote qui m'a prévenu, mais c'est vrai que j'ai commencé à discuter avec 2-3 personnes comme ça. Mais même en plus, c'est au bout de 2 jours, tu fais mais au fait, comment tu t'appelles? Parce que tu discutes avec ce gars-là et finalement, ça devient presque un pote, mais t'as même pas besoin de savoir son nom, quoi.
Parce que vous rejoignez des valeurs ou vous vous mettez d'accord, ou justement, ou parce c'est que ça. La discussion elle est fluide ou...
Oui, c'est ça, c'est soit parce que tu te rejoins sur un truc, des fois ça peut être aussi un truc qui n'a aucun rapport avec la politique, parce qu'il y a un moment où on lâche prise, évidemment, ça peut être une belle connerie, toi tu réagis dessus, et du coup tu vas vers cette personne, et puis finalement tu peux même commencer à discuter autre chose, de société, de politique, alors qu'au départ ça peut partir sur un vieux délire autour des canards. c'est...
Toi, tu fais de la trompette, t'es venu avec ta trompette tout à l'heure?
Ouais, hier. Ouais. Bah oui, on m'a dit qu'il y avait un bœuf d'organiser. Bon, ça s'est un peu organisé vite fait à l'arrache. Mais ouais, du coup, j'ai amené ma trompette.
Je crois que les gens, hier soir, étaient trop fatigués de toute
l'excitation
de 4 jours. C'est là, ils sont endormis. C'est la première fois qu'on voit des étudiants s'endormir aussitôt un samedi soir.
C'est vrai.
Non, mais ouais, il y avait beaucoup de fatigue parce que c'est difficile d'aller se coucher en fait quand tu enchaînes les rencontres et les discussions et que voilà, tu croises et que ça repart dans un sens, dans l'autre, et qu'il faut t'arracher à ça pour aller dormir, c'est un peu compliqué. Et toi, comment t'étais venu à cette manif pour le travail? T'avais vu un tract?
Avant, j'avais déjà vu des vidéos sur YouTube notamment qui parlaient du projet de réforme El Khomri, avec le hashtag on vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça. Du coup, j'avais déjà ça, et puis j'avais vu que sur Dijon, ça commençait à bouger, et puis j'avais vu, parce que je viens pas de Dijon, je viens du Mans à la base, et même au Mans, il y avait deux, trois personnes qui ont parlé de faire une manifestation, et puis le truc a grandi, j'ai vu comme ça sur Facebook, quelqu'un, je sais plus qui était intéressé par la manif, et je me suis dit, c'est génial! Du coup, je me suis inscrit, je me suis motivé à y aller. Ça tombait bien, j'avais pas beaucoup de cours à cette heure-ci en plus. J'avais même pas, tu sais, quand tu dis que t'as. Je sais pas comment dire ça.
Même pas t'as séché, quoi.
Voilà, c'est ça. Même pas tu te dis, ouais. T'as même pas honte d'avoir séché en plus. Donc je me suis dit, vas-y. Ouais.
Et toi, avant ça, t'étais déjà un peu critique par rapport à tout ça, ou c'est la loi El Khomri là qui t'a un peu réveillé d'un truc en disant putain, mais ce truc là quand même c'est dégueulasse?
Non, je me suis déjà intéressé même avant, quand j'étais au lycée, j'ai déjà fait quelques manifestations, j'ai beaucoup réfléchi aussi, j'ai essayé de réfléchir d'abord par moi-même autour de la politique, de un peu de tout comme ça, parce que j'aime bien juste réfléchir. Mais c'est vrai que je trouve ça qui est bien, c'est qu'avec avec le projet de loi, il y a beaucoup de gens qui réagissent à ce projet de loi. J'ai vu ça notamment sur le hashtag « On vaut mieux que ça », des gens qui se disent apolitiques, qui ne parlent pas vraiment politique, le gouvernement ils s'en foutent, tout comme ça. Et là, ils commencent à s'intéresser à la politique, et ça, je trouve que ça, c'est bon. Parce que du coup, on commence à avoir une cohésion, les gens commencent à se dire... Comment ça va en parler de politique sans passer par
les partis, les
trucs, c'est ça, tout ce qui est parti, syndicat, tout ça. Ouais.
Mais c'est sûr que moi j'ai entendu beaucoup de gens dire ces derniers temps, dans les conversations des autres, etc., que ils avaient jamais vraiment parlé politique. Enfin, qu'ils lisaient beaucoup de choses, ils réfléchissaient, mais que c'était un peu la première fois de leur vie qu'ils avaient autant de discussions politiques avec autant de gens comme ça, et qu'il y avait un espace, même publiquement, ça se fait dans les discussions informelles, mais aussi dans les débats généraux. Je sais pas, hier soir, à la suite d'une présentation sur l'état d'urgence, tout le monde s'est mis à parler ensemble, quoi, de... de qu'est-ce qui s'était passé au moment du Je suis Charlie, des attentats du 13 novembre. Et j'ai l'impression qu'on est revenu sur des sujets pour lesquels il n'y avait pas eu de place à des débats publics et ouverts et à des autres voix aussi, enfin la voix d'autres personnes que celle majoritaire, quoi. Et là, on sentait que les gens avaient envie de revenir même là-dessus, alors que ça fait plus d'un an que ça s'est passé, quoi, mais qu'il y avait des choses à dire même là-dessus, quoi. Quelque chose un peu comme ça. Et voilà.
Après c'est un petit peu ça l'enjeu et ça devient un besoin en fait de libérer cet espace-là pour pouvoir avoir ces discussions. Et j'ai l'impression que les personnes qui ont partagé et qui partagent ce temps-là vont pas réussir à s'en remettre quoi dans la création de cet espace-là. À la fac, il y a pas un endroit pour se retrouver de manière un peu tranquille et pouvoir causer et partager un café de manière hyper informelle. Il y a des machines à café, il y a des halls, mais il n'y a pas un réel espace de discussion et de critique, quoi. Et c'est vraiment ça qui se crée, et c'est ça qui est revendiqué en fait par l'amphimathiase, et ça devient un besoin, j'ai l'impression, et quelque chose de nécessaire, quoi. Et moi, c'est ça que je trouve un petit peu chouette, quoi, dans la capacité à créer ça, quoi. On se manque, en fait, quand on s'en va de cet amphi-là. On se dit, mais non, mais en fait, on devrait y être. Et c'est pas normal que je sois pas là, et tout ça, quoi. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Après, là, on va peut-être se faire une petite pause et écouter une musique qui est passée pendant la manif Place de la Lib et qui a motivé un petit peu tout le monde à partir.
C'est quoi ?
C'est Quatrième Dimension, Travailler pour vivre.
Nélio, quatrième tour, merci. Yom collectif. 7h30, merde. Pourquoi et pour qui j'irai taffer? J'ai pas le mental matinal, même après 10 litres de café. Je retourne me coucher, le sommeil c'est le meilleur des salaires. Je profite du bonheur, ça sera pas moi le plus riche du cimetière. Faut que ta paye, je veux pas me taper les embouteillages. Foutez-moi la paix, je veux vivre sans réveil et sans portable. Lève tes yeux dans le bus, regarde les têtes de déterrés. Le taf c'est la tôle, une peine de semi-liberté. Le bénéf, sont ce mot à la bouche, le reste peu importe. Moi j'y touche, mieux je me porte. Fais de la lèche à ton boss pour une petite augmentation. Le travail c'est la santé, ouais, mais surtout celle du patron. Attendre le week-end toute la semaine, il voudrait vendre ça. Pourquoi gagner ma vie puisque je l'ai déjà? Ça me casse les yeux coups de pointe, même si c'est à Pôle emploi. Le travail y'en a pas beaucoup, faut laisser à ceux qui aiment ça. Travailler pour vivre ou vivre pour travailler. Tu es à la tâche pour tâcher de trouver à grailler. J'ai bouffé des trucs de merde, mais là c'est carrément avarié. L'esclavage moderne s'appelle le travail salarié. Travailler pour vivre ou vivre pour travailler. Travailler à la tâche pour tâcher de trouver à grailler. J'ai bouffé des trucs de merde, mais là c'est carrément avarié. L'esclavage moderne s'appelle le travail salarié.
Les prétendants se pressent aux portes des entretiens d'embauche. Dans l'ambiance glauque, une salle d'attente à prendre patience. Avant que la mort les fauche dans le silence. Les plus chanceux sortiront vite de là. Les autres auront leur signature au pied de leur contrat. Un doigt dans l'engrenage, la machine emporte ton âme. Les rouages écrasent les anonymes quand la routine s'installe. Dans un monde où l'argent règne en maître, les êtres vivants finissent esclaves. Et dans la force de l'âge ressemblent déjà à des cadavres. Ma vie est trop précieuse et j'ai tant de choses à apprendre. Mon temps n'est pas de l'argent et mes jours ne sont pas à vendre. J'ai beaucoup trop à perdre, à suivre les roues de ton système. Subir 5 jours par semaine en attendant le prochain week-end. J'ai pas la clé du problème mais je continue de chercher. J'y pense chaque matin quand le réveil vient me faire chier. Encore un jour où les esclaves rameront au fond de leur galère. À perdre leur vie, à la gagner pour le prochain salaire.
Travailler pour vivre ou vivre pour travailler. Tu es à la tâche pour tâcher de trouver à grailler. J'ai bouffé des trucs de merde, mais là c'est carrément avarié. L'esclavage moderne s'appelle le travail salarié. Travailler pour vivre ou vivre pour travailler. Tu es à la tâche pour tâcher de trouver à grailler. J'ai bouffé des trucs de merde, mais là c'est carrément avarié. L'esclavage moderne s'appelle le travail salarié. Vendredi 12 avril, je lève mon verre à votre santé. As-tu déjà entendu un oiseau en cage chanter? À compter de ce jour, je ne reçois plus d'ordre de personne. Si ce n'est ce que ma conscience et la nature me donnent. Se sentir libre, as-tu jamais connu une telle joie? Quand tes yeux sont ouverts et que tu peux voir loin devant toi. Maintenant je sais, ce rêve n'est pas vain pour qui ose. Il y a un lieu et un temps pour chaque chose.
Je suis fatigué, depuis 10 ans je suis fatigué. Je récupère, je te dis. Salut. Tu vas pas rester là?
Si.
Je m'en fous.
Travailler pour vivre ou vivre pour travailler. Tu es à la tâche pour tâcher de trouver à grailler. J'ai bouffé des trucs de merde, mais là c'est carrément avarié. L'esclavage moderne s'appelle le travail salarié. Travailler pour vivre ou vivre pour travailler. Tu es à la tâche pour tâcher de trouver à grailler. J'ai bouffé des trucs de merde, mais là c'est carrément avarié. L'esclavage moderne s'appelle le travail salarié.
Deux frères très attachés l'un à l'autre avaient une curieuse manie. Ils indiquaient d'une pierre les événements de la journée, une pierre blanche pour les moments heureux, une pierre noire pour les instants de malheur et les déplaisirs. Or, le soir venu, lorsqu'ils comparaient le contenu de leur jarre, l'un ne trouvait que pierre blanche, l'autre que pierre noire. Intrigués par une telle constance dans la façon de vivre aussi différemment le même sort, ils furent de commun accord de prendre conseil auprès d'un homme renommé pour la sagesse de ses paroles. « Vous ne vous parlez pas assez, dit le sage. Que chacun motive les raisons de son choix, qu'il en recherche les causes. » Ainsi firent-ils dès lors. Comme ils constatèrent vite, le premier restait fidèle aux pierres blanches et le second aux pierres noires. Mais, dans l'une et l'autre jarre, le nombre de pierres avait diminué. Au lieu d'une trentaine, on n'en comptait plus guère que 7 ou 8. Peu de temps s'était écoulé lorsque le sage vit revenir les deux frères. Leurs traits portaient la marque d'une grande tristesse. « Il n'y a pas si longtemps, dit l'un, ma jarre s'emplissait de cailloux couleur de nuit. Le désespoir m'habitait en permanence. J'en étais réduit, je l'avoue, à vivre par inertie. » Maintenant, j'y dépose rarement plus de 8 pierres, mais ce que représentent ces 8 signes de misère m'est à ce point intolérable que je ne puis vivre désormais dans pareil état. Et l'autre. Pour moi, j'amoncelais chaque jour des pierres blanches. Aujourd'hui, j'en compte seulement 7 ou 8, mais celles-là me fascinent tant qu'il ne m'arrive d'évoquer ces instants heureux sans désirer aussitôt les revivre plus intensément. Et pour tout dire, éternellement, ce désir me tourmente. Le sage souriait en les écoutant. Allons, tout va bien. Les choses prennent tournure. Persévérez. Encore un mot. À l'occasion, posez-vous la question, pourquoi le jeu de la jarre et des pierres nous passionne-t-il de la sorte? Quand les deux frères rencontrèrent à nouveau le sage, ce fut pour déclarer. Nous nous sommes posé la question, pas de réponse. Alors nous l'avons posée à tout le village. Vois l'animation qui y règne. Le soir, accroupis devant leur maison, des familles entières discutent de pierres blanches et de pierres noires. Seuls les chefs et les notables se tiennent à l'écart. Noire ou blanche, une pierre et toutes se valent, disent-ils en se moquant. Le vieillard ne dissimulait pas son contentement. L'affaire suit son cours comme prévu, ne vous inquiétez pas. Bientôt, la question ne se posera plus, elle est devenue sans importance. Et peut-être un jour, douterez-vous de l'avoir posée. Peu après, les prévisions du vieillard furent confirmées de la manière suivante. Une grande joie s'était emparée des gens du village. À l'aube d'une nuit agitée, le soleil éclaira, fiché sur les pieux acérés d'une palissade, les têtes fraîchement coupées des notables et des chefs. Thank you.
grève sans plaisir n'est que l'ombre d'une grève. Le travail sans plaisir, dit Nietzsche, est vulgaire. Mais la grève sans plaisir l'est plus encore. Une grève qui reproduirait le sérieux, la soumission, l'ennui, la répétition, geste autant que parole, du travail qu'elle suspend, serait un contresens. Au lieu de réaliser la démobilisation, elle serait une mobilisation de plus. On ne devrait pas pardonner à son syndicat, ou pas plus d'une fois, une marche lente dans les avenues d'une ville, quand l'on s'ennuie, quand rien ne saurait se passer. Comme l'amour, du point de vue de celui qui le vend, la grève sans plaisir n'est possible que réduite à un simple moyen. Et alors on négocie, coût, durée, modalité, etc. La grève faite sans plaisir n'existe que blessée, restant l'ombre de soi. On ne devrait pas pardonner trop souvent à son syndicat de blesser la grève, comme il le fait quand il la dévie de sa trajectoire neuve et qu'il la reconduit, la redirige, vers l'ennui des marches lentes. On ne devrait pas pardonner trop souvent au syndicat d'user la grève à de trop petites actions, au risque qu'elle devienne toujours triste et ne soit plus reprise qu'en petites grèves gérées. On ne devrait pas pardonner trop souvent au syndicat d'y aller si imprudemment avec la grève, quand on sait sa fragilité. Non d'ailleurs qu'on reprocherait au syndicat de dépenser trop la ressource de la grève, mais il la dépense mal, il la dépense bourgeoisement, ne sachant plus le somptueux. Et l'on ne devrait pas pardonner au syndicat, jamais, pas une seule fois, d'aller contre la joie, ou même d'oser parler contre elle. Car la rare ressource, la plus précieuse ressource dont dispose la grève, la plus violente et la dernière, quand les autres sont épuisés, la plus violente et la dernière source où boit la grève, ça n'est rien d'autre que sa joie, le dernier filet d'eau fragile de sa joie. On voit des grèves, encerclées par exemple, qui survivent même à la fin. Mais on n'a jamais vu une grève, pas même une, qui fut gorgée de vivre, survivre à sa joie.
Moi, je voulais vous lire un texte qui m'a été suggéré dans l'amphi, un texte de Neruda. Et je pense à ça parce qu'il y a ce bouquin qui circulait aussi sur les tables de l'amphithéâtre Mathiez.
Ce qu'on vient de lire là.
Comment ?
Ce qu'on vient de lire là, en fait, qui s'appelle Théorie sur
le concept de grève, écrit par l'Institut de démobilisation.
Voilà. Rassemblez à travers la terre toutes vos silencieuses lèvres dispersées. Et de votre néant, durant toute cette longue nuit, parlez-moi, comme si j'étais ancrée avec vous. Racontez-moi tout, chaîne à chaîne, maillon à maillon, pas à pas. Affûtez les couteaux que vous avez gardés. Mettez-les sur mon cœur, mettez-les dans ma main, comme un fleuve jaune d'éclairs, comme un fleuve de tigres enterrés. Et laissez-moi pleurer des heures, des jours, des années, des âges aveugles, des siècles stellaires. Donnez-moi le silence, l'eau, l'espoir. Donnez-moi le combat, le fer et les volcans. Collez vos corps à moi, ainsi que des aimants. Accourez à ma bouche et mes veines. Parlez avec mes mots, parlez avec mon sang.
Bon, tout ça est très émouvant. Moi, je suis un peu émue parce que bon, on est tous un peu émus depuis quelques jours quand même. En étant là-bas, on a l'impression que quelque chose prend forme qu'on attendait depuis longtemps. Comme le dit un peu le texte qu'on a lu en ouverture de l'émission, et que ça y est, on a commencé quelque chose, quoi. Mais bon, on peut peut-être vous parler de par quoi on va poursuivre maintenant.
Eh ben, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine, déjà à l'amphi ? Peut-être faire une petite présentation du programme, même s'il est en construction. Demain, après-midi, il y a une discussion sur les drones. Et il y a une projection sur... je ne sais plus comment s'appelle le film.
C'est La guerre du drone, le titre du film.
Et c'est suivi d'une discussion...
Sur le livre de Grégoire Chamaillou, La théorie du drone.
Ce sera une discussion un peu sur la guerre à distance. Qu'est-ce que ça veut dire que de faire la guerre avec des drones? Et sur l'invasion technologique.
Voilà, c'est pas une conférence, ce sera plus une discussion.
Ouais, c'est une discussion, ouais. Je pense que c'est une discussion intéressante parce que elle est pas sans rapport avec ce qui se passe en France depuis les attentats. C'est quelque chose qui revient souvent, de dire qu'est-ce que ça veut dire faire la guerre ailleurs, et du coup comment aussi. Enfin voilà, c'est important de comprendre comment la France fait la guerre à l'extérieur pour comprendre aussi ce qui s'est passé, quoi, les attentats de novembre et de janvier.
Et c'est assez drôle de noter que les militaires appellent la guerre des drones, le gouvernement par le ciel.
Wow. Voilà, tout ça c'est demain à 14h.
Ensuite, à 18h, comme quotidiennement, il y a l'Assemblée Générale. Du coup, il y aura ça aussi demain soir, un suivi d'une bouffe, comme d'habitude. Et puis mardi, le programme, il est de la journée, il est un petit peu en construction. Mais...
Non, il y a une intervention d'un professeur d'économie qui va venir parler de l'emploi des jeunes en Europe, je crois. Il va décrypter un petit peu ça.
Ça, c'est plutôt en fin de journée.
Non, c'est à 14h.
C'est à 14h ?
Ouais, okay. Ouais, c'est à 14h. Et puis, AG, donc tous les jours... Ah non, pardon, t'as raison, excuse-moi. L'intervention du prof d'économie, c'est à 18h mardi, et donc l'AG est à 20h. Et on voudrait convier à cet AG toutes les personnes...
à 19h, parce que justement, son intervention ne va pas durer longtemps. Voilà.
Ok. On voudrait convier à cet AG toutes les personnes qui voulaient prendre part à la mobilisation de jeudi. Et donc, jeudi, il y a une manifestation au départ qui est appelée par les lycéens du Castel, pour protester contre des coupes de subventions, je crois.
Ouais, qui implique des classes bondées à plus de 36 élèves, qui implique aussi un mauvais suivi des lycéens étrangers et du coup qui s'en sortent pas vraiment en cours, qui implique plein de choses comme ça que les lycéens trouvent un petit peu, qui trouvent complètement dégueulasse, quoi. Et c'est une manifestation qui est prévue avec leurs profs, qui a été programmée il y a quand même quelques semaines, et ils trouvaient ça intéressant de croiser cette lutte là avec justement la réforme de la loi travail qui est en cours, et vu que les liens qui sont en train de se créer dans cet amphi sont assez forts entre les lycéens qui passent et les étudiants qui sont là, et même les syndicats, c'était le moment de pouvoir montrer qu'on était tous et toutes ensemble contre les perspectives qu'offre le gouvernement. Et voilà, donc le rendez-vous, c'est à 10h devant le rectorat le jeudi 17. Et voilà, donc...
Suivi d'un repas, non ?
Oui, suivi d'un repas... On ne sait pas encore où, sur une place de la ville. et voilà. Et ensuite, à 14h, place de la Libération, la manif contre la loi travail. Qui est appelée par les étudiants, les lycéens, solidaires, la CGT, pas nationale, mais il y aura des membres de la CGT qui seront là, parce que justement ils peuvent pas vraiment se présenter comme les membres de la CGT, vu que nationalement c'est pas un appel de la CGT.
Ouais, il y a seulement Solidaire qui appelle à venir.
Mais il y aura quand même beaucoup de salariés qui seront là. Sinon qu'est-ce qu'on... Et puis suivi d'une assemblée aussi à la fac, et une invitation à une grosse bouffe à la fac qui devrait devenir un rituel.
Et voilà, le programme va se construire. L'idée, c'est un peu que tous les jours, il s'y passe des choses. Tous les midis, vous pouvez venir manger à l'amphi, tous les soirs aussi, et tous les jours à 18h, donc des assemblées générales auxquelles tout le monde est convié. Pour finir, on peut dire que toutes les informations qui concernent ce qui se passe dans l'amphi Mathiez, ainsi que les mobilisations en ville, vous pouvez les retrouver pour le moment sur le Facebook qui s'appelle Soulèvement contre la loi travail Dijon. Il y a simplement ce Facebook pour l'instant, il y a un site qui est en construction pour pouvoir y déposer tous les textes d'analyse aussi, et puis tout le fruit des réflexions qui se construisent là-bas.
Mais sur le Facebook aussi sont disponibles les comptes rendus d'AG depuis peu, il y a aussi les conférences qu'il y a pu avoir dans cet amphi qui sont dispo sur le site. Il y a tout un tas de matériaux en fait, de tout ce qui est produit en fait dans cet amphithéâtre, qui est disponible sur le Facebook, en attendant d'avoir un site où là ce sera peut-être plus intuitif comme fonctionnement.
Du coup, la date du 17, et puis ensuite il y a aussi un enchaînement de dates un peu clés là qui vont venir dans le mois, donc je me souviens pas.
Le 31 mars, mobilisation nationale.
Voilà, le 31 mars, c'est mobilisation nationale. Mais avant ça, il y a diverses mobilisations aussi dans la semaine, mais je les ai pas toutes en tête. Alors on vous remettra tout ça sur notre site internet, sur tvnr.noblogs.org. Vous pourrez y trouver aussi tous les textes qu'on a lus. Le premier texte, il est issu d'une espèce de petit livre, brochure, qui s'appelle simplement Appel. On vous le mettra. Le texte que j'ai lu, le conte, c'est un texte de Raoul Vaneghem. On peut dire qui c'est, Raoul Vaneghem ? Moi, je sais pas. Mais...
C'est un situationniste qui était proche,
dans les années en 68, il était proche de Guy Debord et des autres situationnistes, quoi.
Ok. Et le texte que toi t'as lu, on vous le redit, c'est thèse sur le concept de grève de l'Institut de démobilisation. Et le tien, c'était Pablo Neruda.
Ça. Ouais, chant général, voilà, qui m'a été suggéré à l'Amphi Mathiez.
Voilà, vous retrouverez aussi les différents communiqués de l'AG, celui qu'on a lu, mais les autres. Et voilà, on vous rajoutera peut-être même quelques petits bonus. On se retrouve dimanche prochain. En attendant, vous pouvez nous trouver à l'Amphi Mathiez, dont Vacarme en Réunion aura fait son QG. Et puis voilà, dans la rue également.
Bon, bah, à la semaine prochaine alors.
Ciao.
Ciao.
Et c'est parti.
Il y a eu au moins 150 listes bloquées en France, quoi. On était 3000 à manifester.
Mais les gars, le gouvernement, il est foutu.
Oh, ouais.